Vous connaissez le tour de magie quand on fait disparaître en deux temps trois mouvements une carte à jouer, une pièce de monnaie ou alors un foulard, ce drôle d'accessoire qui a l'insolence de partout se faufiler tout en élégance légère, de prendre son temps quand il est dans les airs quitte à s'évaporer. Sur le papier, il a l'art, le foulard, de se faire oublier. Ce qui est assez ironique, vous conviendrez, quand on sait à quel point de foulard ces dernières années on a pu en parler. Sa première fonction à ce morceau de tissu en forme de carré, c'est en réalité de protéger du soleil, du vent, du froid, de la poussière ou même des gaz lacrymogènes, protégé du regard parce qu'il agit comme un masque et dissimule celui qui choisit de le porter, protégé de l'extérieur en fait, comme si, comme par magie, il pouvait tout faire oublier. Sauf qu'on ne voit que lui, en réalité, pièce maîtresse des jongleurs, des illusionnistes et autres prestidigitateurs. C'est son ultime tour de passe-passe, son étrange tour de magie. Il est à la fois nulle part et partout, le foulard. Tu parles d'un accessoire.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui n'a pas de foulard ce matin, mais n'en pense pas moins. Elle est une de nos plus grandes stylistes, créatrices de mode. 68 a été pour elle une année d'effervescence, d'émulation, de créativité, de changement. À l'époque, elle n'avait pas 30 ans. 50 ans plus tard, que reste-t-il en elle de l'insurgé? Bonjour Agnès B.
Pas changé.
Pas changé,
je crois.
Rien du tout.
Il faut toujours se mettre en colère, il faut toujours... Réagir à ce qui vous choque, à ce qui vous... C'était ça, en fait. Tout nous choquait, tout nous ennuyait. On a eu envie de... Moi, j'étais dans la rue, voilà.
Et c'est un état d'esprit que vous avez
voulu
toujours garder.
Oui, je crois.
Merci, en tout cas, d'être là. L'objet de 68 dont vous avez choisi de nous parler ce matin, c'est précisément le foulard.
Oui, parce que on avait des foulards, parce qu'on était dans la rue tout le temps, il y avait les lacrymos. Et donc, on avait un bandana qu'on nouait à l'arrière et qu'on remontait sous les yeux quand ça chauffait, disons. Et il était quelquefois un peu mouillé parce que ça protégeait mieux des lacrymos, parce que les lacrymogènes, ça sentait très bon au début et on se mettait à pleurer comme des madeleines.
Hein. J'ai lu que certaines mamans mettaient du jus de citron sur les foulards à l'époque.
Ah, je sais pas, ma maman, elle était pas là. Elle était, elle, pas à Paris. Moi, j'étais à Paris avec mes jumeaux qui avaient 7 ans. Et on était à Maine-Montparnasse dans le grand immeuble le long de la gare, le long des rails, là, qui partait vers la Bretagne. On était dans ce grand immeuble, là. J'avais rien dans la maison, presque. Il y avait 3 lit, une table, 3 chaises. Et je raconte l'immeuble parce qu'un jour, pendant mai 68, tout d'un coup, nous, on a commencé à mettre des tissus noirs et rouges à nos fenêtres. Puis on a vu la façade se couvrir de bleu, blanc, rouge et de rouge et noir. Ah. Et il y a eu la photo dans Paris Match, après mai d'ailleurs, de notre immeuble comme ça, qui était comme une espèce de métaphore de comment c'était en France à ce moment-là.
Et les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant
les
ce temps-là?
Les enfants, moi je partais quand j'entendais Europe 1 et je savais où il fallait aller grâce à ça. Et les enfants, ils jouaient au CRS et aux étudiants avec les familles qui correspondaient, en effet. Ils avaient 7 ans, et je les laissais, et je savais qu'ils s'amusaient, il y avait toujours...
Vous voulez dire que les vôtres jouaient aux étudiants?
Les miens étaient les étudiants, les autres étaient les CRS, c'était comme ça.
C'est oui. Quelque chose, quand même. Et oui. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus sur ces foulards, Agnès B. De quel tissu est-ce qu'ils étaient faits?
C'était des bandanas, vous savez, on avait des... Les bandanas, ça existe depuis toujours, ce truc américain avec un carré qui va juste assez pour se faire un bandeau. Ou...
Mais je suppose c'était que pour vous, taille-là. Ils ont changé de sens après 68.
Ben oui, c'est le foulard noué derrière surtout, oui. Et ça permettait de cacher un peu le visage, d'avoir les yeux qui sortaient au-dessus. Voilà, il n'est pas trop pleuré.
Quelle valeur il a le foulard dans vos collections encore aujourd'hui? Une valeur de résistance?
Oui, je sais pas, j'ai fait un bandana d'ailleurs avec le lézard, le point d'ironie, tous nos petits emblèmes là qui sont sur ce foulard là. Peut-être c'est parce que je l'ai porté à ce moment-là et j'aime bien les foulards. Et les garçons en portent souvent maintenant, ils se nouent ça.
Grâce à
ça
vous,
joli.
Notamment. Retour en 68, qu'est-ce que vous faisiez? Vous n'aviez pas encore ouvert votre première boutique?
Non,
vous
j'étais styliste pour différentes maisons. J'avais travaillé à Elle d'abord comme jeune assistante et puis après j'étais styliste indépendante. Après avoir travaillé chez Dorothée Biss, et donc j'essayais de vendre mes dessins, j'étais dans la dèche totale avec mes jumeaux, mais on n'était pas malheureux.
Et dans quelle mesure est-ce que 68 a changé votre plan, vos plans de carrière?
Oh, ça, j'en sais rien. Je continuais à galérer un peu, pas mal même encore après, hein. Mais on s'amusait.
Agnès B, comment étaient les gens dans la rue à l'époque?
Si on parle des étudiants, ils avaient des blousons, ils avaient des t-shirts et des jeans et des baskets, des tennis, quand on appelait ça des tennis à ce moment-là. Parce que c'est pour courir, c'était mieux, évidemment. Et quand on voyait les CRS avec, ils étaient habillés, mais comme pendant la guerre de 14, ils avaient des gros casques noirs, et ils avaient aussi des lunettes, et ils avaient aussi des boucliers ronds. Dès qu'ils se cachaient derrière le bouclier, ils ne voyaient pas arriver les choses, donc c'était terrible. Maintenant, ils ont des boucliers transparents. Tant mieux pour eux. Parce qu'à ce moment-là, c'était dingue de les voir comme ça.
Et vous qui étiez styliste c'était à l'époque, harnaché. Vous avez vu un changement justement dans la façon qu'ont eu les gens de s'habiller ?
Oui, alors, les rédactrices de mode de Elle, qui étaient quelquefois en vison, en vêtements chics, en Hermès et tout ça, la rue influence toujours la mode. Et là, après mai, on a commencé à les voir en tennis et en jean. Et en t-shirt, ça a révolutionné la mode, mai 68. Ça a rendu ringard tout ce qui était avant, tout ce qui était bourgeois, tout ce qui était... C'est ça qui était... C'était un succès, ça. Alors, on parle beaucoup de mai 68, en mal, en ce moment. Alors qu'il y a eu les accords de Grenelle, qui étaient... On en profite encore de ces accords de Grenelle. Faut pas oublier. Et puis, le mouvement du 22 mars, là, on est le 23. Je me souviens de Sauvageau, de Gessmar et de Cohn-Bendit. Et c'est eux qui nous ont entraînés par ce qu'ils disaient.
Dans quelle mesure vous avez été influencé aussi par cette parole de mai 68 ? Je pense à un slogan, par exemple, sur la publicité.
Oui, un jour je vois « La publicité est con, la publicité vous rend con ».
Ça, c'est quelque
et
chose.
Ça m'a parlé, et je n'ai jamais fait de publicité.
C'est quand même intrigant de ne jamais avoir fait de publicité,
jamais fait publicité
dans la mode. Alors comment on fait ?
Mais, je sais pas, justement, j'ai été porté par la presse, heureusement, qui a reconnu dans mon travail des choses intéressantes, des nouvelles et tout. Et j'étais vraiment portée par la presse. C'était beau parce que c'était pur. Ça ne marchait pas. Tu me donnes ça, je te donne ça. C'était comme ça. Elles appréciaient, les journalistes, mon travail. Et c'est elles qui m'ont fait connaître.
Vous parliez du 22 mars. Vous vous souvenez du 22 mars?
Je me souviens de ça. On entendait à la radio tout ce qui se passait. Puis Cohn-Bendit et tout ça. Et ça, c'est ce mouvement. Donc Sauvageau et Gessmar, et c'était des gens que j'admirais, parce que je les trouvais courageux, je les trouvais intéressants. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça beau d'avoir envie de faire une révolution, et finalement... Moi je me suis retrouvée, je me souviens le lendemain de la rue Gay-Lussac, là je suis allée voir, parce que la nuit j'y étais pas, non. Mais je suis un peu trouillarde aussi, je veux pas. Ça faisait un peu peur hein, quand même.
Ouais.
Et donc le lendemain, le matin, là, je suis passée là-bas, j'ai vu les platanes sciées du boulevard Saint-Michel, et puis cette rue Gay-Lussac entièrement dépavée, avec... ça chauffe, hein. C'était le combien, ça? Je sais pas quand c'était.
Bon, en tout cas, on parlait... Oui. Ça, c'est devait être en mai.
La rue Gay-Lussac. Non, mais c'était en mois de mai, mais je sais pas si c'était le 11, le 12 ou le 15. Mais j'étais déjà dans la rue bien avant, hein. À la fin de la guerre d'Algérie, j'étais dans la rue déjà, hein. J'étais... Je me suis mariée à 17 ans avec Christian Bourgois, qui était de gauche, et moi, ça, tout ce qui s'est passé dans les années 60 jusqu'à 68 et tout, ça, j'étais dans la rue déjà.
Ce qui est intéressant avec 68, Agnès B., au regard de votre travail, sont aussi les slogans. Ça me paraît très important. Et je vous parle de slogans parce qu'elle a été très créative cette année 68 de ce point de vue. Si je vous dis, par exemple, soyez réaliste, demandez l'impossible.
Mais bien sûr, j'adore ça. Je viens de refaire un t-shirt avec cette phrase. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Je trouve ça beau. Il y avait des phrases très poétiques, hein. J'aimais beaucoup, moi.
Mais demander l'impossible, ça voulait dire quoi ?
Ça veut dire demander des choses dont on sait que c'est peut-être irréaliste, mais allons-y. Changeons les choses, c'est ça.
Et si je vous dis, fermons la télé, ouvrons les yeux.
Bien sûr, fermons la télé, fermons les écrans, ouvrons les yeux. Il y a tout à voir, partout, tout le temps.
Ça aussi, vous l'avez écrit sur un t-shirt récemment.
Oui.
De commémoration, en fait, de 68.
Oui, maintenant j'ai mis fermons la télé, fermons les écrans, ouvrons les yeux.
Vous n'avez pas la télé, Agnès B ?
Si, mais on ne peut pas se... Non, il n'y a pas que la télévision. Il faut ouvrir les yeux, il faut regarder, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Moi, je suis très curieuse. Et alors, je raconte une chose aussi. En mai 68, j'avais une petite voiture sans porte et j'allais ramasser des blessés. Je les ramenais à l'hôpital aussi. Ça m'est arrivé de faire ça à ce moment-là. Oui. Parce qu'il y avait quand même des blessés. Il n'y a pas eu de mort, grâce au préfet de police quand même qui était bien. Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais ce préfet de police, il a tenu le truc pas mal, franchement.
La beauté est dans la rue.
Oui.
Qu'est-ce que vous trouvez beau ?
La beauté est dans la rue aussi. Parce que dans la rue, il y a des gens qui dorment par terre, hein. Mais il y a aussi la beauté. Quand on se balade à République, on voit tous ces gens différents, des Africains, des Arabes, des femmes magnifiques avec des coiffes. La République, c'est à côté de mon bureau et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et on y a passé du temps à la République aussi, avec les manifs.
Et c'est là où vous allez chercher le cœur de votre travail, dans la rue?
Je sais pas, oui. Ça peut être n'importe quoi qui me donne une idée. J'attrape les idées au vol.
J'ai remarqué, Agnès B., que dans cette collection, en hommage à 68, il n'y a pas « Il est interdit d'interdire ».
Bah non, mais j'allais pas tout mettre non plus.
Qu'est-ce qui était interdit?
Beaucoup de choses étaient interdites. Il fallait avoir, par exemple, les cheveux courts pour aller à l'école. Ils ne pouvaient pas laisser pousser les cheveux, alors qu'il y avait déjà les Beatles, n'est-ce pas? Qu'il y avait les cheveux longs. Donc, mes fils, d'ailleurs, qui avaient 7 ans, avaient les cheveux longs déjà.
Ah, mais ils étaient rebelles, ils jouaient aux étudiants dans la cour. Oui. Ça, on a compris. Et vous, vous étiez du genre à transgresser les interdits, justement?
Oui, mais je suis sage, je suis gentille, mais je peux transgresser, oui.
Quels interdits est-ce que vous transgressiez à l'époque?
Déjà, ma mère voulait pas que je sois là avec mes enfants à Paris. Quittez Paris, venez chez nous, vous pouvez pas rester là-bas. J'ai dit, mais non, tout va bien, vous inquiétez pas.
Vous devez être rassuré.
Il n'y avait pas de portable, évidemment, donc on s'appelait une fois tous les 3 jours. Mais on n'avait pas, il n'y avait pas grand-chose. Hein. On avait heureusement des provisions un peu à la maison, mais d'abord, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas d'endroit pour faire les courses, tout était fermé presque, c'était dingue.
Mais en même temps, vous en parlez avec tellement de joie.
Mais on était tellement tristes quand ça s'est fini. Quand on les a vus remonter les Champs-Élysées avec Malraux, De Gaulle, Malraux, tous les vieux, bon, que j'admire par d'autres côtés, mais ce jour-là, on les détestait. Hein. Ils ont remonté les Champs-Élysées en se tenant par les bras, il y avait Malraux qui criait et tout. J'ai vu ça à la télévision, on était dégoûtés. On était très tristes à la fin de mai.
Un dernier slogan, vous devriez en faire un t-shirt, moi je crois. Vivre sans temps mort, jouir sans entrave.
Oui, ouais. Pourquoi pas.
Vous l'avez mis en application ça dans votre vie? Vivre sans temps mort, jouir sans entrave.
Oui, je crois finalement.
Et alors aujourd'hui, Agnès B., que la parole est plus libérée que jamais dans cette émission, la question qui me vient, qu'est-ce qui vous fait jouir?
Ce qui me fait du bien, sans parler de jouir... C'est la musique, c'est la beauté des choses, la beauté de la ville, la beauté des gens, l'émotion de mes amis, avec qui je partage beaucoup de choses, que j'aime beaucoup.
Je pensais bien que vous alliez dire quelque chose autour de la musique. Je pensais même que vous me répondriez Eric Burdon, The Animals.
Que j'adore.
Ah, vous voyez, là, ça c'est un vrai oui, Agnès B. Oui. C'est vous qui me l'avez soufflé en préparant cette émission, The Animals.
Parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps et que j'aimais beaucoup.
Et reprenez en 68 To Love Somebody des Bee Gees, France Inter, Boomerang, Agnès B.
You don't know what it's like.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle, animal, ça ne fait pas un pli, avec sa crinière blond platine de lionne, son regard amusé de chat de gouttière, son allure souple, agile et ronron de panda roux, elle est dévoreuse et dévorante, extrêmement bien vêtue ce matin, avec un t-shirt sur lequel on voit un autoportrait de Rembrandt, sous lequel il est écrit « Les grands ont été petits ». Agnès B., qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Mais ça veut dire qu'on se méfie toujours de la jeunesse, c'est pas nouveau, même en 68 on en avait peur, on en a toujours peur de la jeunesse. Et au contraire, moi je pense que tous les grands étaient petits, tous les grands étaient des ados. Des grands comme Rembrandt a été un ado, évidemment. Il fait un portrait de lui à 23 ans, en train de rire.
Alors il se marre, ouais.
Il se marre, autoportrait en train de rire, comme ça, je trouve qu'on dirait un selfie avant l'heure. Vraiment, magnifique portrait qui est au Getty Museum à Los Angeles.
Je vous ai invité à Agnès B. pour qu'on pense ensemble à l'héritage de 68 ce matin, comme ça a été le cas toute la semaine. On a tenté de varier les points de vue, les souvenirs, les analyses, les arts aussi. Cette émission, elle devait avoir lieu au Musée des Beaux-Arts de Paris, justement. En mai 68, qu'est-ce qui se passait aux Beaux-Arts ? Qu'est-ce que vous y avez vu ?
Il y avait évidemment la nuit, les artistes faisaient des trucs incroyables qu'on voyait le lendemain matin sur les murs. C'est dément. Et il y avait une crèche aussi aux Beaux-Arts, où il y avait des copines qui avaient leurs enfants, des petits-enfants en bas âge à la crèche des Beaux-Arts.
Ne me dites pas que vous avez mis vos jumeaux.
Non, mes jumeaux, ils étaient ailleurs, ils étaient grands déjà. Mais ceux d'avaient 2 ans, 3 ans, ils étaient à la crèche des Beaux-Arts. Il y avait une crèche, c'était, à chaque fois, il y avait une bonne idée d'organisation.
Et alors, vous y êtes passé, vous y faisiez quoi?
Moi, j'y suis passé une ou deux fois, mais bon, j'étais pas aux Beaux-Arts à ce moment-là.
Juste pour voir?
J'y suis passé pour voir où j'avais des amis. Mais là, l'exposition aux Beaux-Arts, en ce moment, il y a plein de choses à voir, belles et intéressantes. Il y a en même temps la peinture qui se faisait à ce moment-là.
Oui, parce que c'est une grande période
manger. Oui, c'était
d'effervescence artistique aussi.
Oui, puis c'était intéressant dans cette exposition de voir à la fois ce qui se faisait, les affiches aux Beaux-Arts la nuit en sérigraphie. Parce que la sérigraphie, c'est un moyen formidable, ça coûte rien. Il y a un écran, de l'encre et une raclette. Et on fait une affiche et on la met le lendemain sur les murs. Et nous, je me souviens de la rue qui monte à l'Odéon avec la fameuse affiche du CRS avec, voilà, CRS, SS et tout, c'était collé dans la rue de Condé, là, c'était impressionnant le lendemain matin.
Vous en avez encore des affiches, vous ?
Moi, j'en avais une, je sais pas trop où elle est, c'était « Laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes », et c'était des vaches rouges, comme ça, imprimées plutôt au tampon, comme ça, des vaches rouges avec cette phrase dessus.
Qu'est-ce que les œuvres produites après 68 ont de spécial ? Là, c'est vraiment à la collectionneuse d'art que je m'adresse.
Oh, après 68, je sais pas. Vous savez, l'art, justement, ce qui montre aux Beaux-Arts, c'est qu'il se passait d'autres choses avec Ayo, Arroyo, ces gens-là. Il y a aussi Fromanger, qui expose en ce moment au Salon du Dessin, d'ailleurs, qui était quelqu'un que je connaissais très bien. Je les connaissais très bien, tous ces artistes-là, depuis les années 60.
Et collectionner, quand est-ce que vous avez commencé à le faire ?
Oh, j'ai collectionné des cartes postales au-dessus de mon lit quand j'avais 10 ans. C'était les anges de italiens, là, bon. J'ai commencé à avoir des cartes postales. C'est comme ça que j'ai commencé à collectionner. Et puis après, on m'a offert une œuvre. C'était Recalcati, d'ailleurs, dans les années 60, qui m'a offert un autoportrait. Il effaçait l'encre avec son visage. Il faisait des empreintes comme ça. C'était magnifique. Et c'était la première œuvre que j'ai eue. Puis après, en 83, j'ai acheté l'autoportrait de Basquiat, que j'ai toujours, qui est un dessin magnifique, très bouleversant.
Et on verra tout ça dans
On en verra, mais là... Y a
dans votre fondation, qui va ouvrir ses portes bientôt.
Oui, la FAB.
On verra jusqu'aux cartes postales que vous aviez.
Peut-être, oui.
Mais ça serait pas mal.
C'était Fra Angelico, voilà. C'était des anges de Fra Angelico.
Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fondation ?
J'ai un fonds de dotation depuis longtemps pour soutenir des choses, des causes, des gens, des... Et donc, ça va relier les deux, ça va être la fondation, et il y a 3000 pièces dans ma collection, et je vais les montrer sur des thèmes, régulièrement. Et la Galerie du Jour, il sera aussi au même endroit.
Est-ce que vous vous considérez comme une artiste, vous ?
Moi, non. C'est comme quelqu'un qui dit... Non. Comme quelqu'un qui dit « je suis poète », non. Je suis artiste, je sais pas. Non.
Mais c'est quoi un artiste pour vous ?
C'est toute autre chose que moi.
C'est une bonne réponse. Pourtant, vous créez ?
Mais il m'impressionne, les artistes. Oui. J'adore découvrir les artistes. Ils s'en vont en général après dans d'autres galeries, mais si je faisais la liste d'artistes que j'ai découverts et ça me fait plaisir. Des Américains, des Français, des gens que j'ai... Les Ripoulins, par exemple. La première exposition de la Galerie du Jour, c'était les Ripoulins, c'est-à-dire Pierre Huyghe, Klosky, Ox, Manu, tout ça. Et maintenant, ils ont changé de nom. Il y en a un qui est mort, Manu d'ailleurs est mort. Mais c'est devenu les grands artistes actuels. Pierre Huyghe, c'est un des grands artistes contemporains. Donc, je les avais connus dans le métro. Ils faisaient des affiches 4x3, je les avais contactés et je les avais exposés. Et 2 mois après, ils exposaient à New York chez Tony Chafrasi, au mois de janvier. Moi, je les avais exposés en novembre.
Ça vous rend fier ?
Moi, ça m'amuse. Ça me donne de l'assurance. Ça me conforte dans mes choix. C'était les premiers, peut-être, mais après, il y en a eu beaucoup d'autres.
Mais comment elle est née, cette passion pour les arts ? Ça vient
de... Je voulais faire ça. Je suis née à Versailles. J'étais passionnée par Versailles, le château, tout ça. Et je voulais aller plus loin. Je voulais aller derrière. Je voulais faire l'école du Louvre et être conservateur de musée. Puis, je ne savais pas comment me rapprocher de l'art. Enfin.
Vous n'êtes pas complètement plantée, Agnès.
Depuis que j'étais toute petite, je voulais me rapprocher de l'art. Nourri, ça me console, ça me fait du bien.
Il y a une œuvre en particulier, un moment d'émoi artistique qui pourrait avoir retenu votre attention quand vous étiez petite ? Le château ?
Bien sûr, il y a l'allée des marmousets, c'est des petits bébés qui tiennent des plats au-dessus de leur tête, comme ça, et moi je me mettais entre les marmousets, je me mettais avec eux, j'avais la même taille qu'eux, et je me mettais sous les petites couperoles de l'allée
la radio,
des marmousets.
C'est qu'on est obligé d'imaginer, du coup oui. Là on vous voit, toute petite, dans l'allée des marmousets, ma chère Agnès B. Des émois littéraires, il y en a eu ?
Ah oui, je parlais, justement, j'ai repensé à Georges Darien, Balaikœur.
Ah oui, parce que quand
c'est
je vous ai demandé
livre, oui.
De terminer cette émission de la façon dont vous voulez, vous m'avez dit Darien.
Oui, parce Balaikœur, que j'étais donc versaillaise, je lis ça, j'ai 14 ans, Balaikœur de Georges Darien. C'est la manière dont les Versaillais se sont comportés, ça m'a horrifiée et j'ai compris quelque chose. Ce livre m'a marqué pour toujours.
Alors il faut nous raconter.
Et c'est écrit comme par un enfant. Il dit qu'il a 12 ans, d'ailleurs, dans le début du livre. Et il écrit comme Salinger écrit à la Trappe-cœur. C'est drôle. Balaikœur et la Trappe-cœur, c'est écrit un peu de la même manière par quelqu'un qui est très jeune. Et écrit comme il parle. Il écrit un peu comme il parle.
Ah, c'est pas la même époque, oui.
Non, mais c'est drôle, justement.
Et qu'est-ce qu'il raconte ?
Mais j'adore la jeunesse aussi, c'est ça. Ben, il raconte avec un œil horrifié de la manière dont réagissaient les Versaillais après la Commune et pendant la Commune. Il y en a eu 8 de morts là-dessous, ben, tant mieux, disait son père. Et lui, il assistait à ça, horrifié.
C'est intéressant que vous ayez choisi ce livre au regard de 68.
Parce que je trouve qu'il faut le relire, ce livre. Je trouve que c'est bien. Moi, je sais que ça m'a beaucoup marqué.
Mais au regard de 68, justement, dans une émission consacrée à 68, vous avez choisi un livre sur la Commune.
Oui, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui m'a fait réagir de la même manière un peu, de comprendre des choses à travers ce qui se dit. Lui, il écoute ses parents qui parlent d'une manière horrible, comme ça, et lui, il n'est pas du tout comme eux. Et moi, je ne me sentais pas comme mes parents non plus en mai 68, parce que ce n'était pas du tout pour la Révolution. Alors que moi, je trouvais ça très bien. Mais je pense qu'il faut... La révolution, c'est bien. Être réformiste, c'est bien aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a quelqu'un de réformiste. Bon, c'est pas facile. Mais j'espère qu'on arrivera à réformer des choses.
Alors vous dites c'est un réformiste. Est-ce que vous y voyez, en lui, une âme de révolutionnaire ?
Non, mais je pense qu'il faut des réformistes. Pendant longtemps, on n'en a pas eu. Il faut changer des choses, je pense.
Vous rêvez encore de révolution, vous ? Ah, vous avez le droit de le dire, c'est pas un gros mot.
Moi, je pense qu'il faut se manifester. Je trouve que maintenant, les gens qui manifestent, c'est par corporation. Avant, c'était collectif, on avait envie de changer globalement les choses. Là, maintenant, les gens vont dans la rue que pour eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas avant.
Vous étiez un groupe ?
Moi, j'avais des copains, oui. J'ai toujours eu des copains.
Vous n'y alliez jamais toute seule ?
Si, j'y allais beaucoup toute seule aussi. Si, si.
Mais alors, de quelle révolution ?
Mais on se retrouvait grâce à Europe 1, je vous ai dit.
Il y avait... Ne répétez pas trop.
Il y avait la radio.
Ça va finir par devenir embarrassant.
Ouais, d'accord, mais c'était comme ça à ce moment-là. C'est ça qu'on écoutait. Et c'était eux qui étaient sur le terrain et qui nous disaient où aller.
Mais de quelle révolution est-ce que vous rêvez aujourd'hui ? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Bon, comment dire ? Il faut... Je trouve qu'on parle tout le temps des mêmes choses. Bon, le harcèlement, tout ça, on n'en peut plus d'entendre ça. Je sais si... Bon, il faut faire des choses, je suis d'accord... Même pour les enfants, aussi bien que pour les femmes, les enfants qui sont harcelés, qui sont... J'ai fait un film d'ailleurs, moi, pour ça, pour dire qu'il faut parler de ça.
Mais pourquoi vous dites on n'en peut plus ?
Mais parce que il faut arrêter de parler tout le temps des mêmes choses. C'est ça qui est fatigant en ce moment. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a la planète. On parle de la planète. On parle. Mais je sais pas. On ne parle pas de changer des choses d'une manière poétique.
C'est là-dessus qu'on va terminer, alors. Changer les choses d'une manière poétique. Merci Agnès d'être venue faire un tour dans Boumang, d'avoir clos d'une si belle façon cette semaine dédiée à 68. J'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui débute la campagne de lancement pour le site d'action dont France Inter est partenaire et dont je sais, Agnès, qu'il s'agit d'une cause que vous avez toujours tenu à soutenir.
Oui, j'ai toujours eu des préservatifs. Il y en a toujours dans mes boutiques, dans des bols. On prend si on veut, même sans acheter rien.
Merci à vous, donc, et merci à tous les grands révolutionnaires de Boomerang, Valine Larouge, Lola Concrivine, Pierre Labarricade, Maud de Gaulle et Audibert Le Téméraire. À lundi.